Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 13h. Ce journal vous est présenté par Simon Loire.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, centre-ville de Liège complètement gelé par la troisième journée de grève prévue. Sacha Baquet était sur place et viendra nous en parler. Bart de Wever a tenu un discours devant la Chambre à 10h. Le Premier ministre a demandé la confiance du Parlement pour le budget fédéral du gouvernement Arizona. Nouvelle négociation en vue pour le conflit russo-ukrainien. La visite d'un envoyé spécial américain à Moscou la semaine prochaine a été confirmée par le Kremlin. Aujourd'hui marque la troisième et dernière journée de grève annoncée. Pas de transport en commun, plusieurs manifestations et piquets de grève. L'entrée aux galeries Saint-Lambert était complètement bloquée par différents grévistes. Sacha Baquès était sur place ce matin. Bonjour Sacha.
Bonjour Simon.
Quelques manifestants matinaux étaient présents dès 7h30.
Oui, mais c'est à partir de 9h que les choses sérieuses ont commencé. De plus en plus de manifestants sont venus renforcer les piquets tout autour des galeries Saint-Lambert. L'accès était donc complètement bloqué, personne n'a pu rentrer. Eliane, membre du gang des Vieux en colère, était présente.
Par solidarité d'abord, ensuite de toute manière les retraités sont attaqués de plein fouet par toutes les mesures gouvernementales. Mais j'ai envie que les jeunes en général et de l'avenir. Le gouvernement trouve de l'argent pour des avions, pour de l'armement, mais il n'a pas les possibilités, soi-disant, pour l'enseignement, qui est la chose la plus importante pour l'avenir du pays.
Ce n'était pas les seules manifestations à Liège ce matin?
Non, certains des manifestants présents aux galeries Saint-Lambert se sont rendus ensuite place Xavier Nogent aux alentours de 10h. Là-bas, c'était particulièrement le secteur associatif qui s'est mobilisé, dont fait partie Clarisse, animatrice socioculturelle à la Maison des Jeunes d'Esnotilf.
Je suis là aujourd'hui à Liège pour faire entendre ma voix, pour aussi défendre notre association, notre Maison des Jeunes, qui est touchée du coup par les différentes mesures, et aussi pour défendre le secteur jeunesse. Moins de subsides, moins d'activités, moins de projets, ça a des conséquences sur les jeunes.
Des conséquences pour tout le monde par ailleurs?
Oui, il y a eu plusieurs prises de parole publiques rappelant l'importance, je cite, d'une convergence des luttes.
Merci Sacha. C'est donc le centre-ville qui est occupé pour l'instant, mais ce soir ce sera autour de le parc de la Beuverie. La police a limité l'accès avec des conteneurs. Elle craint de possibles débordements. En cause, la venue de Jean-Louis Boucher et Valérie Latini ce soir au Palais des Congrès. On connaît enfin la date d'entrée en vigueur du malus pension. Ce sera pour 2027, soit un an après ce que le gouvernement avait initialement prévu. C'est le ministre des Pensions Yann Yambon qui a confirmé cette information après une déclaration du quotidien flamand Utrechtse News. Pour rappel, cette mesure ne s'appliquerait, je cite le ministre, qu'aux personnes qui ont travaillé moins de 35 années à mi-temps et n'ont pas totalisé 7020 jours de travail sur l'ensemble de leur carrière. Rappelons aussi que le fédéral est parvenu à un accord sur la réforme des pensions en début de semaine. Le projet de loi doit maintenant être soumis à l'avis du Conseil d'État. Bart de Wever s'est adressé aux députés de la Chambre ce matin. Il a demandé la confiance du Parlement pour le budget fédéral trouvé lundi. Il a rappelé ses grandes mesures. D'abord, le gel de l'indexation des parties de salaire supérieures à 2 500 € bruts en 2026 et 2028. Ensuite, l'augmentation d'assises, dont celle des gaz naturels et de la TVA. Par exemple, elle passe de 6 à 12% pour la nuit d'hôtel, les salles de sport et les plats à emporter. Enfin, l'objectif de remise au travail pour près d'un cinquième des malades de longue durée belges, soit 100 000 personnes. Le vote de confiance aura lieu ce vendredi à 11h, soit 48 heures après le discours du Premier ministre. Hier avait lieu la journée internationale contre les violences faites aux femmes. À Liège, le collectif contre les violences familiales et l'exclusion organisait un micro ouvert. Une soirée de déclamation au sujet libre, rapportée par Axel Hoffelink.
Chez moi, c'était pas la vie. C'était la peur.
Un micro se tient devant une trentaine de chaises remplies. Les mots sont durs, francs, ils font du bien. S'exprimer en public donne le trac, mais l'ambiance est bienveillante. C'est Annick, psy et animatrice en éducation permanente au CVFE, qui a organisé ce micro ouvert.
On avait pensé, vu la journée, au thème des violences faites aux femmes, et puis on s'est dit que non, que ça pouvait être libre, que déjà, être une femme devant un micro, c'est une prise de pouvoir. On voulait proposer une scène intimiste, pour permettre à toutes les femmes et aux minorités de genre de prendre la parole dans un lieu safe. C'était vraiment important pour nous de donner la parole à des femmes parce que des femmes au micro, c'est rare. C'est empouvoirant pour elles. Et toutes celles qui croient que leur parole ne compte pas, elles voient que oui.
Fatima a trouvé le courage de quitter son mari violent. D'abord venue pour l'hommage aux victimes de féminicide, elle s'est sentie inspirée par le micro ouvert et a composé son texte sur le vif.
On a besoin des événements comme ça, oui. On est là sans jugement. Je participais au projet Comme Tiens un corps, rendre hommage aux femmes victimes de féminicide.
Pour le CVFE, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est tous les jours. Mais le combat se fait ensemble.
Je suis encore debout et ça c'est déjà beaucoup.
Le CVFE sera également présent aujourd'hui jusqu'à 17h sur la place Saint-Lambert. D'autres événements se poursuivront tout le mois. À l'international, la Maison-Blanche annonçait ce matin la visite de leur envoyé spécial au Moyen-Orient à Moscou. Une visite confirmée par le Kremlin. Steve Witkoff se rendra donc en Russie la semaine prochaine. Le but, présenter la dernière version du plan de paix avec l'Ukraine. Après avoir été remanié à plusieurs reprises, il semblerait que les parties arrivent enfin à un consensus. Des remaniements demandés par Volodymyr Zelensky, mais aussi par les pays de l'UE qui montrent toujours leur soutien à l'Ukraine. Ursula von der Leyen a d'ailleurs déclaré ce matin qu'ils avaient un point de départ, alors que le Kremlin a fait lui aussi des états de certains points positifs dans le plan américain. L'annonce de cette visite qui tombe alors que l'Ukraine décomptait encore ce matin 92 attaques russes survenues cette nuit. Au Brésil, Jair Bolsonaro a épuisé ses recours juridiques. Son premier appel avait été formellement rejeté mi-novembre et la Cour suprême a certifié hier qu'aucun autre recours ne sera possible. Il devra purger ses 27 ans de prison. Il avait été condamné en septembre par la Cour suprême du pays pour avoir été le chef d'une organisation criminelle ayant conspiré pour maintenir autoritairement le pouvoir suite à la victoire de son concurrent, le président Lula. Jair Bolsonaro purgera sa peine à Brasilia, où il est en détention provisoire depuis samedi, le tribunal ayant jugé un risque élevé de fuite. Une annonce qui a secoué le monde du sport hier, la chaîne de streaming DAZN a rompu son contrat de diffusion avec la Pro League. La raison est simple, pas de distribution multi-opérateur, pas de modèle durable, pas de modèle durable, pas de contrat, pas de contrat. Pas de contrat. Yoline Olivier a décrypté pour nous les raisons de ce désaccord.
L'appel d'offres stipulait qu'au moins deux opérateurs traditionnels, comme Proximus, Orange ou Telenet, devaient assurer la distribution sur le câble. Mais sans accord, la 16e journée du championnat, qui débute ce vendredi par le match Standard Malines, ne pourra pas être diffusée. Et sans diffuseur, le match risque soit d'être annulé, soit d'être invisible aux supporters. Pour rappel, DAZN a déboursé plus de 84,2 millions d'euros pour acquérir les droits de la Pro League. Une somme conséquente qu'il comptait rembourser grâce aux opérateurs traditionnels. Cependant, le sport n'est plus une priorité pour ceux-ci, qui préfèrent investir dans la 5G et la fibre. Si DAZN s'est permis d'investir autant d'argent, c'est parce que le contrat précédent, conclu en 2020, s'est révélé prometteur. Or, les choses ont changé en 5 ans. Sans diffusion et sans distributeur, les clubs de foot et de la Pro League sont perdants. Les clubs et la Pro League ne recevront donc plus d'argent issu de la diffusion des matchs. Cela signifie un gros manque à gagner et pour certains clubs en difficulté financière, ça sera un coup de massue. Selon la RTBF, DAZN a tout de même l'intention de reprendre les négociations avec la Pro League afin d'assurer la diffusion des rencontres, au moins jusque la fin de saison.
Et donc une fin de saison potentiellement difficile à suivre pour les fans. Et tout de suite, notre page sportive avec Amélie Huppertz. Bonjour Amélie.
Bonjour Simon.
En quelque sorte, on peut dire que les Jeux Olympiques démarrent aujourd'hui.
Oui, c'est ça. En fait, la flamme olympique a été allumée ce matin à Olympie. Elle prendra ensuite la direction de l'Italie pour la cérémonie d'ouverture des prochains Jeux Olympiques d'hiver le 6 février.
Hier en football, une équipe belge disputait un match de Ligue des Champions.
Oui, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée 1-1 face à Galatasaray. Barcelone s'est imposée 3-0 face à Chelsea. Et Leverkusen se déplaçait à Manchester City. Il l'a remporté 2-0.
Des Belges joueront aussi ce soir d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est le club de Bruges qui se rendra au Portugal pour affronter le Sporting Portugal à 21h. D'autres rencontres sont prévues ce soir comme PSG-Tottenham, Arsenal-Bayern ou encore Atlético Madrid-Inter Milan.
Et pour le classement, Amélie ?
Alors pour le moment, le Bayern, Arsenal et l'Inter Milan sont premiers avec 12 points. Et du côté des Belges, on retrouve l'Union Saint-Gilloise à la 22e place et le club de Bruges à la 26e.
Il y a aussi eu du hockey sur glace hier soir.
Oui, les Bulldogs de Liège ont d'ailleurs vaincu les Golden Sharks de Malines 8-1. En demi-finale de la Coupe de Belgique, ils accèdent donc à la finale.
Et hier matin, une équipe belge disputait un match dans un sport plutôt insolite.
C'est ça, c'était en curling en fait. L'équipe masculine a battu la Finlande 9-5 lors des championnats d'Europe Division B. C'était leur 5e victoire consécutive dans ce championnat.
Merci Amélie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, sur 48 FM.